Deutsche Welle, Économie et développement.
J'ai lutté contre la domination des Blancs, j'ai lutté contre la domination des Noirs. Mon idéal le plus cher est celui d'une société libre et démocratique, dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales, a dit un jour Nelson Mandela. 20 ans après la fin de l'apartheid, comment les richesses sont-elles désormais réparties en Afrique du Sud? Pour en savoir plus, notre correspondante est allée à la rencontre des Sud-Africains blancs. Dans cette édition également, l'engouement du continent africain pour les réseaux sociaux et tout particulièrement Twitter. Vous écoutez le magazine Économie et Développement, Antoine Moutot au micro. Bonjour et bienvenue à tous. Au début du mois, Nelson Mandela nous a quittés. Comme prévu, sa disparition a suscité beaucoup d'émoi à travers le monde. Pendant de longues années, il a lutté contre la domination et le régime de ségrégation imposé en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, dans le pays, les Blancs continuent à contrôler largement le secteur privé et gagnent toujours, en moyenne, 8 fois plus que les Noirs. 87% des Blancs ont des revenus moyens ou supérieurs, alors que 85% des Noirs sont pauvres. Mais grand changement notable depuis la fin de l'apartheid, on estime désormais que 10% des plus de 4 millions de Blancs que compte le pays vivent désormais dans la pauvreté, voire l'extrême pauvreté. Valérie Hirsch, notre correspondante en Afrique du Sud, est allée à la rencontre des Sud-Africains blancs, à commencer par un ancien gérant de magasin qui vit maintenant dans un bidonville.
Paul Marais vit dans un bidonville improvisé dans un parc de Krugersdorp à l'ouest de Johannesburg, devenu un refuge pour les familles blanches tombées dans la misère. Paul ne pouvait plus payer le loyer de sa maison qui venait d'augmenter. Il s'est installé dans une caravane dans le parc avec 8 membres de sa famille. Un mois après, il a perdu son travail.
Ils disent qu'ils ne pouvaient pas garder les gens qui habitent dans un bidonville parce que c'est mauvais pour la réputation de l'entreprise. Il y a 2 ans, on s'en sortait encore. Mais depuis, les loyers, l'eau, l'électricité, la nourriture, tout a augmenté. Il y a beaucoup de blancs pauvres ici, mais la plupart ne veulent pas travailler. Ils veulent juste se relaxer, recevoir tout gratuitement. Pour le moment, je suis désespéré et en colère contre moi-même, car je n'ai pas épargné pour ma vieillesse.
Malcolm Stewart est un Sud-Africain blanc, lui aussi, mais il habite dans une grande maison à Sandton, un quartier riche de Johannesburg. Son entreprise importe des vêtements de sport.
Jusqu'en 2001-2002, c'était fantastique. On a tous fait beaucoup d'argent, notre niveau de vie était élevé, tout allait bien. Ensuite, la croissance économique a ralenti et beaucoup de réglementations ont été adoptées. Le Black Empowerment, c'est-à-dire promotion économique des Noirs, a été très bien conçu, mais très mal appliqué. C'est dur pour un homme d'affaires d'avoir dû céder une partie importante de son capital pour presque rien sans que le chiffre d'affaires ait augmenté. Cela a causé de la déception. On a trouvé, et cela peut paraître cynique, que cette attitude des Noirs de dire « l'on y a droit » s'est généralisée. Nous avons ressenti que les gens, les Noirs, n'étaient plus prêts à travailler comme nous l'avions fait.
And we felt that people weren't prepared to work anymore for the way we had.
Pour l'économiste Azar Jamin, la politique de promotion économique des Noirs, le BEI, a permis la création d'une bourgeoisie noire, mais n'a pas créé d'emploi. 30% des Noirs n'ont pas de travail. En cause, l'économie est toujours dominée par les grands groupes blancs qui étouffent la création de PME.
Il y a un énorme problème dans l'économie sud-africaine. Il n'y a pas assez de petites entreprises. Les réglementations et les interventions du gouvernement ne cessent d'aggraver la situation.
Le
gouvernement de l'ANC n'a pas réussi à briser le contrôle de l'économie par les grands groupes, en partie à cause de l'alliance avec les syndicats. Il y a une relation très confortable entre le gouvernement, les grandes entreprises et les syndicats tout-puissants. Les petites entreprises et les chômeurs sont marginalisés. Il y a beaucoup de donnant-donnant et cela a entraîné un réseau de corruption.
Le président Ramaphosa, mais ils ont fait des billions out of
des jeunes politiciens. Même le vice-président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, ont fait des milliards grâce à la politique de Black Empowerment. Les plus communistes, les plus à gauche sont maintenant des multimillionnaires. Le secteur privé est aussi corrompu. Oui, on vient de le prouver. Les groupes de construction se sont entendus sur les contrats de construction des stades de la Coupe du Monde.
L'économie sud-africaine est stable, mais la croissance est bien faible quand on la compare à celle des autres pays africains. L'Afrique du Sud aurait pu mieux faire. À Johannesburg, Valérie Hirsch pour la Deutsche Welle.
Un reportage signé Valérie Hirsch. Nous allons maintenant passer à l'interview de la semaine, mais avant ça, faisons une courte pause en musique. Selon une étude publiée l'année dernière par une société de communication britannique, le réseau de microblogging Twitter a conquis le continent africain. L'Afrique du Sud est le pays le plus actif sur Twitter. D'après l'enquête, il serait suivi par le Kenya, le Nigeria et l'Égypte. Mais les pays francophones ne sont pas non plus en reste. Par rapport aux autres pays africains et proportionnellement à sa population, le Rwanda tweet énormément et se trouve à la 7e place du classement. Le Mali, lui, à la 9e. Certains d'entre vous sont d'ailleurs peut-être inscrits sur ce réseau social. Alors, l'Afrique est-elle un terreau fertile pour Twitter ? On écoute Damboa Obenga. Il est directeur de projet en ingénierie informatique.
C'est très social, en fait, très social, c'est le cas de le dire. Hein. Ça répond à un besoin d'une société. Donc, il faut que les gens communiquent entre eux. Et ce concept existe en soi en Afrique. En général, les jeunes aujourd'hui n'ont pas besoin de réseaux sociaux pour communiquer. Hein, et nulle part ailleurs. Mais un concept est né et on l'adopte parce que c'est une nouveauté, il y a un engouement, c'est nouveau, c'est un phénomène de mode.
Et selon une étude américaine sur Twitter, les chefs d'État africains se retrouvent parmi les membres de Twitter les plus actifs au monde. Comment on peut expliquer ça ?
Alors Twitter, ce sont des outils de communication hein, concernant les politiciens. Ils utilisent comme de réels outils de communication C'est des outils qui leur permettent de se présenter en tant que VRP de leur pays ou de leur parti. C'est vraiment l'outil de communication qu'ils peuvent utiliser aujourd'hui avec facilité et ils s'y mettent sans frein. Ouais.
En Afrique, certains pays francophones sont très présents sur Twitter. C'est par exemple le cas du Rwanda, malgré sa petite taille. Le président rwandais, Paul Kagame, y est également très actif. D'où cela vient-il ?
Le président Kagame, c'est un adepte des technologies de l'information, sans quoi il le ferait pas. Il a peut-être compris en cela que bon, qu'il faut qu'il pourra convaincre davantage ou donner son point de vue ou atteindre de plus en plus de jeunes. Voilà. Je crois qu'il a compris une chose, parce que communiquer à travers des meetings, des discours, les jeunes ne s'y rendraient pas, honnêtement. Il a compris, il a fait une analyse simple, il a dit, alors, je souhaite toucher les jeunes. Quels sont les outils que les jeunes utilisent aujourd'hui ? C'est Facebook, c'est Twitter, je m'y mets, et voilà. Ça donne ce genre de résultat je pense que le résultat est au rendez-vous, enfin, concernant le Rwanda et surtout le président Kagame.
Mais d'autres pays francophones, comme par exemple le Mali, malgré leur taille et leur population, tweetent beaucoup moins que le Rwanda, par exemple. Alors, le Rwanda est-il plus connecté que les autres ?
Justement, enfin, lorsque vous dites sont-ils plus connectés que d'autres, par au-delà de connecter, faut comprendre qu'il y a des infrastructures qui permettent de le faire. Lorsque vous prenez les autres exemples, hein, ces pays n'ont pas encore atteint le niveau de déploiement, par exemple, de la fibre optique ou des infrastructures qui leur permettent de communiquer avec une aisance et avec une facilité. Aujourd'hui, au Rwanda, on communique à travers tout le Rwanda avec une certaine aisance et une facilité aussi. Hein. C'est, la technologie n'est pas une barrière, contrairement aux autres pays où, sortis des grandes villes, des grandes métropoles, on n'a plus rien. On est complètement déconnecté. Ils sont connectés, comparés aux autres, ils sont beaucoup plus connectés, hein, et comparés aussi aux pays, enfin, entre les pays francophones et les pays anglophones. Les pays anglophones sont connectés, ont fait des déploiements d'infrastructures très importants, et donc ils ont la population, la taille de la population qui leur sert de rampe de lancement de leur, soit de leurs outils, parce qu'il y a des réseaux, une dizaine de réseaux sociaux typiquement anglophones, donc ça sert de rampe de lancement à leurs réseaux sociaux, mais aussi ça leur permet donc d'utiliser les réseaux extérieurs, enfin étrangers, occidentaux. Mais c'est lié, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a les infrastructures qui permettent à la population de se connecter. On peut avoir l'un, mais si on n'a pas l'autre, effectivement, on ne se retrouvera pas dans des taux de connexion aussi élevés que l'exemple rwandais, par exemple, pour la partie francophone. Mais je crois que si on s'attarde légèrement sur la partie anglophone, que vous verrez que ces taux sont relativement élevés.
Vous venez d'entendre Damboa Obenga, directeur de projet en ingénierie informatique. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous avez pris ce magazine en cours de route ou vous avez tout simplement envie de le réécouter. Eh bien, la rubrique médiathèque de la Deutsche Welle est là pour ça. Alors, retrouvez-la sur notre site internet dw.de/français, français sans la cédille. En attendant, passez un très agréable moment sur les ondes de la Deutsche Welle. Portez-vous bien et à bientôt.